commencer. Bonjour à tous, merci d'être là malgré l'horaire matinal. J'espère que la salle va continuer à se remplir, je pense que des gens vont encore arriver un petit peu au compte-gouttes dans la matinée. Ce qui nous réunit ce matin, c'est les entreprises récupérées argentines, dont on a un témoin à côté de moi, Sergio Stotiello, qui nous vient de Villa Maria, dans la province de Córdoba. Sergio, donc, qui est travailleur, qui est journaliste d'un journal qui s'appelle... Donc Sergio, qui est journaliste à Villa Maria, au journal qui s'appelle El Diario del Centro del País. C'est un journal qui a été récupéré en 2001, au moment de la grande crise argentine, donc ça a été une des premières expériences. Il a donc 10 années de recul sur ce mouvement de récupération d'entreprise. Alors comment va s'organiser notre débat? Dans un premier temps, Sergio va nous présenter El Diario, leur expérience, les luttes par lesquelles ils sont passés, où ils en sont arrivés aujourd'hui. On aura ensuite un premier temps de débat avec vous pour que vous puissiez poser vos questions, parce que je pense que c'est le plus intéressant et vous en avez certainement beaucoup. Dans un deuxième temps, on élargira au contexte argentin et au mouvement des entreprises récupérées aujourd'hui. Qu'est-il devenu? C'est vrai qu'en France, on connaît bien le début du mouvement, 2001, la crise argentine. On ne sait pas forcément trop ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis, on finira par un temps, je pense qu'il vous intéresse tous, sur les leçons de ces expériences pour la France, pour l'Europe en crise aujourd'hui. Peut-on s'en inspirer? Donc je vais pas perdre trop de temps dans les présentations et puis je vais laisser la parole d'abord à nos partenaires. Donc on a plusieurs associations qui invitent à cette conférence. Je sais pas dans quel ordre vous voulez procéder, si tu veux parler de Gardo, donc pour France Amérique Latine, un petit mot de bienvenue.
Bonjour, merci déjà pour l'invitation à France Amérique Latine. Nous sommes une association de défense des droits de l'homme. Et dire défense des droits de l'homme, ça veut dire aussi défendre l'emploi, le logement, la santé et toute une série de domaines dans lesquels, malheureusement, les sociétés latino-américaines ont été victimes de la mise en place d'une politique néolibérale, comme on l'a connu, et que les alternatives progressistes, heureusement, ont fait la place. Je ne vais pas m'élargir pour laisser la parole essentiellement à Sergio qui nous amène une expérience qui est assez intéressante. Le reste, ça va venir dans le débat. Et mis à part qu'il y a une petite différence avec Baptiste quand il dit par rapport à les leçons, il y aura des recevoirs et des données des leçons. Et sincèrement, je préfère qu'on fasse un échange d'expériences parce que ce n'est pas nécessairement des modèles qu'on peut amener d'un endroit à l'autre dans le monde par rapport à des cultures, à des histoires qui sont différentes. Mais des découvertes dans le monde des luttes, des résistances, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant et qui va dans le bon sens des mouvements progressistes.
Merci. Je vais passer la parole à Marcelo pour qu'elle parte, si tu veux dire un petit mot.
Oui. Effectivement, nous aussi, très court, nous sommes une association qui appuie au lieu du peuple argentin. Et dans ce sens, depuis 2001, on a développé en France toute une activité en relation aux entreprises prises par les travailleurs. On a reçu des délégations de Sanon, de l'hôtel Bauen en particulier. On a organisé avec eux des débats et des réunions. Alors nous sommes aujourd'hui très honorés de recevoir Sergio et de pouvoir discuter avec lui, avec vous, l'expérience, comme dit Eduardo, le recul. Je ne sais pas si les leçons ou non, mais en tout cas, la crise capitaliste concerne aussi l'Argentine et la France, les gouvernements de Kirchner et les gouvernements de Sarkozy, de différentes manières, mais concerne tous les gouvernements. Alors, on aura des choses à échanger sur les expériences en France et en Argentine.
Benoît, pour l'Association pour l'autogestion.
Oui, ben, bonjour à toutes et tous. Donc, Association pour l'autogestion, nous poursuivons trois buts autour de l'association, autour de l'autogestion. Le premier, rappeler la mémoire de ce qu'a été l'autogestion au travers de différentes luttes passées, qui peuvent être aussi bien, bon, je prends des exemples, l'hiver, l'IPE par exemple, Deuxième chose que nous tenons à informer et organiser la solidarité autour d'initiatives autogérées actuelles. C'est ainsi que nous suivons régulièrement les reprises d'entreprises qui sont actuellement en France. Par exemple, le conflit Fralib sur lequel nous informons régulièrement. Nous sommes aussi dans un processus dans lequel nous mettons en avant toutes les initiatives autogérées qui ont lieu actuellement en Grèce sur différents domaines. Et nous sommes à l'initiative d'un collectif d'organisation de la solidarité avec les dispensaires sociaux autogérés grecs. On y reviendra. Et le troisième élément d'intervention de notre association, c'est organiser, induire, débuter une réflexion sur l'autogestion, l'appropriation sociale. Et dans ce cadre, nous travaillons conjointement actuellement avec l'OMOS, avec Espace Mars et d'autres associations telles que Copernic et autres, sur un séminaire de longue durée de 2 ans à peu près, qui alterne des auditions et des réunions de travail sur l'appropriation sociale, l'autogestion et les coopératives. Voilà, je n'en dis pas plus pour laisser place au débat. Si vous voulez mieux connaître notre association, vous pouvez aller sur notre site web qui comporte déjà 200 articles à peu près qu'on a amassés en l'espace qui règle une année plus. C'est autogestion.asso.fr. Voilà.
Oui, merci, merci Baptiste d'avoir eu cette très bonne idée d'inviter Sergio. Lorsque tu as contacté ATAC, hein, bien sûr, on a tout de suite répondu oui. C'est bien beau de dénoncer le capitalisme, de dénoncer le pouvoir des actionnaires. Il faut proposer quelque chose comme piste de sortie du capitalisme. Il y a effectivement la reprise des entreprises par ses salariés et par ses usagers. Pas n'importe comment, pas en ne produisant n'importe quoi. Il faut aussi penser à une reconversion à la fois écologique et sociale. Bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. La question ne se pose pas pour un journal qui a un outil de démocratie. Donc voilà, donc à nouveau, merci Sergio et merci Baptiste pour cette initiative.
Merci à vous. On va commencer donc le débat et je vais passer la parole à Sergio donc pour une première partie centrée sur l'expérience del Viaggio del Centro del País. Sergio, te doy la palabra. Et je vais essayer de faire le traducteur. Vous m'aiderez si jamais c'est compliqué. Voilà.
Bonjour. Merci. Son las únicas dos palabras que sé de francés.
Ce sont les deux seules paroles que je connais du français.
Oh, estoy en principio muy agradecido de que me hayan invitado a contar esta experiencia y espero estar a la altura de las expectativas.
Je suis très honoré qu'on m'ait invité ici et j'espère être à la hauteur des expectatives.
Para poner primero en contexto, la historia del diario del centro del país, que es la empresa recuperada a la cual pertenezco. Hay que decir algunas cositas, algunos puntos. Creo que somos el último diario en blanco y negro que sale en Argentina. Fue recuperado el 13 de diciembre de 2001. La fecha es porque imagino que medianamente todos saben lo que pasó en diciembre de 2001 en Argentina.
Sí. Donc, pour remettre un petit peu l'expérience dans son contexte, il faut parler de l'histoire del Diario del Centro del País qu'il vous a montré, donc qui est l'entreprise récupérée à laquelle il appartient. Il faut insister sur quelques points. Donc déjà, c'est le dernier journal en noir et blanc qui existe en Argentine, qui est diffusé en Argentine, qui a été récupéré le 13 décembre 2001. Donc, pour ceux qui connaissent les dates, c'est vraiment en plein dans la crise argentine. J'arrive pas à relire mon dernier mot, mais je pense que j'ai dit.
Era un grupo de 32 trabajadores del diario. Decidieron ocupar la empresa y rescatar su fuente de trabajo, toda vez que el dueño anterior la había abandonado a su suerte prácticamente.
Donc c'était un groupe de 32 travailleurs qui ont décidé d'occuper leur entreprise et de sauver ce qu'ils appellent leur source de travail, donc sachant que l'ancien patron avait plus ou moins abandonné l'entreprise.
Pardon, se escucha mi voz, ¿sí?
Vous l'entendez?
Non.
Ah, il veut pas le micro.
En el caso particular del diario, la lucha fue distinta al caso, por ejemplo, de Zanon, que es uno de los casos más emblemáticos que se conoce.
Donc dans le cas du journal, c'est assez différent de ce qui s'est passé par exemple à Zanon, qui est un des cas les plus connus.
Porque finalmente, después de varios meses de conflicto, terminaron los trabajadores llegando a un acuerdo con el antiguo dueño, y el dueño cedió la empresa a cambio de que los trabajadores renunciaran a 20 años de indemnizaciones, 20 años de aportes a la salud y a la jubilación, y se hicieran cargo de una deuda de $70,000.
Alors, donc dans leur cas, après plusieurs mois de conflit, ça aboutit à un accord avec l'ancien patron qui a accepté de céder l'entreprise en échange de 22 ans d'indemnisation, d'apport aux caisses de santé, de retraite, et en échange d'une dette de
$70,000.
De $70,000.
A cambio de esa renuncia, el antiguo dueño dio la firma, la marca, y prestó una casa que era donde funcionaba el diario.
Donc en échange de cette renonciation, l'ancien patron a donné la marque et cédé la maison dans lequel était imprimé le journal.
Prestó un año.
Pendant un an.
Y jugaron un rol muy importante los sindicatos gráfico y de prensa en esta transacción.
Donc, les syndicats de la presse et les syndicats graphiques ont joué un rôle très très important dans cette négociation.
Porque se cobraron la deuda del patrón, se la cobraron con la rotativa y nos cedieron la rotativa para que pudiéramos imprimir.
Ils se sont payés cette fameuse dette qui leur a été transmise avec les machines, puisqu'en fait, donc, je pense que ça demande une explication. Les syndicats en Argentine gèrent les caisses de retraite, de santé, etc. Donc la dette des anciens patrons était à l'égard de ces caisses de retraite. Donc en fait, la manière dont la dette a été payée, c'est en cédant les rotatives aux syndicats qui les ont ensuite cédées aux travailleurs.
Y también es importante decir, muy importante decir, que la gente, la comunidad, la ciudad apoyó mucho la lucha de los trabajadores.
Y c'est très important aussi de dire que la communauté, la ville de Villa María, a beaucoup appuyé la lutte des travailleurs.
Claro, hay que decir que es una ciudad pequeña de 70.000 habitantes.
Il faut dire que c'est une petite ville de 70.000 habitants.
Y cuando los trabajadores sacaron el conflicto a la calle, mostraron el conflicto, y no sé cómo traducir esto, hicimos ollas populares, y bueno, entonces la gente se acercó a traer comida, a darnos fuerza, a decir que había que seguir adelante.
Les travailleurs ont porté le conflit dans la rue pour le faire connaître, pour le diffuser. Ils ont fait une soupe populaire, des piquets de grève, et donc la population s'est rapprochée, les a aidés, leur a apporté de la nourriture, du soutien matériel.
Et junto con eso, se adueñó del diario.
Se
apropió del diario.
Et à ce moment-là, ils se sont donc approprié le journal. Ils sont devenus les propriétaires du journal.
A tal punto que nosotros, los trabajadores, decimos que administramos el diario de la ciudad.
À tel point que les travailleurs ont dit qu'ils administraient le journal de la ville. La population s'est appropriée le journal de la ville.
Bueno, la historia ya lleva 12 años, 11 años.
Donc, il y a déjà 12 années d'histoire de journal récupéré.
Y empezaron, empezó un grupo de 32 trabajadores imprimiendo 1200 ejemplares diarios de 32 páginas.
Donc ils ont commencé avec 32 travailleurs qui imprimaient 1200 exemplaires de 32 pages.
Y hoy somos 54 socios, imprimimos 6.000 ejemplares, o un promedio de 7.000 ejemplares de mínimo 56 páginas.
Donc aujourd'hui, ils sont 54 associés, ils produisent en moyenne 7000 exemplaires et d'un minimum de 56 pages.
Y de estar en una casa prestada, pasamos a construir un edificio propio.
Donc après avoir été dans une maison qui leur a été prêtée, ils ont pu construire un bâtiment en propre.
Que Baptiste tuvo la oportunidad de conocer.
Que j'ai eu la chance de connaître et qui effectivement est magnifique.
Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que se puede hacer.
Et ce qu'il faut dire, c'est que ça peut se faire.
Que todas las experiencias son diferentes. No conozco una sola experiencia que sea igual a otra de las 300, alrededor de 300 empresas recuperadas que hay en Argentina.
Toutes les expériences sont vraiment différentes. Il n'y en connaît pas une seule qui se ressemble des 300 à peu près entreprises récupérées qu'il y a en Argentine.
Pero es posible.
Mais c'est possible.
En el caso particular del diario, empezamos con mucho sufrimiento, llevando apenas monedas semanalmente a la casa.
Donc dans le cas du journal, ils ont commencé dans beaucoup de souffrance en ramenant quelques petites pièces de monnaie chaque semaine à la maison.
Pero nos mantenía erguidos la idea de que era nuestro, que todo ese esfuerzo que estábamos haciendo era todo para nosotros.
Mais ce qui les a maintenus, j'ai pas bien compris le mot, mais je pense qu'il les a maintenus actifs en vie, c'est ça. C'était l'idée que tout ça leur appartenait.
Entonces, bueno, eso se ve que sirvió también para contagiar y convencer a la gente de que fundamentalmente éramos iguales, éramos sus iguales, y por eso la gente nos apoyó tanto.
Il s'agissait de contagier, de convaincre les gens qu'ils étaient tous égaux, qu'ils étaient leurs égaux, leurs égaux, pardon.
Fue muy difícil porque lo es en todos los casos, en todas las experiencias de recuperadas. Una cosa muy difícil es gestionar desde un concepto cooperativo en un concierto neoliberal.
Ce qui est très difficile, comme dans toutes les expériences, c'est de gérer l'entreprise de manière coopérative quand on est dans un contexte néolibéral.
Porque los proveedores, las empresas proveedoras de insumos, por ejemplo, piensan en el negocio de la manera liberal. O sea, la tinta vale tanto y si tenés el dinero la llevas y si no tenés el dinero no la llevas.
Parce que les fournisseurs pensent, par exemple les fournisseurs de matières premières, ils pensent dans un cadre libéral, par exemple si l'encre vaut tant, on te la vend tant.
Y particularmente con el insumo del papel, que para nosotros es un insumo básico, papel prensa, que es un capítulo aparte, la deuda era con papel prensa, estos eran $60,000 de deuda de papel prensa, y papel prensa nos dijo, si quieren papel, pagan el papel y empiezan a pagar la deuda. Entonces empezamos con dos bobinas de papel prestadas y teníamos que llevar el dinero, o sea que comprábamos el papel semanalmente.
Donc, par exemple, plus particulièrement, l'entreprise qui fournit le papier presse en Argentine leur a dit, donc ils avaient une dette de 60 000 dollars en matière de papier presse. Et donc, ce que leur a dit leur entreprise, c'est vous voulez produire, ok, mais si vous voulez nous acheter du papier presse, il faut que vous commenciez à rembourser la dette. Ce qui fait qu'en plus de payer le papier, ils devaient payer la dette accumulée par les anciens patrons. Et ils ont dû commencer avec deux bobines de papier et puis acheter le papier à la semaine.
Y pasaron por lo menos casi 3 años hasta que logramos pagar la deuda y mostrar que éramos un emprendimiento confiable, que no éramos unos locos que habíamos decidido hacer una barricada en el diario y nada más.
Donc il leur a fallu quasiment 3 ans pour payer leurs dettes et puis prouver qu'ils étaient des gens en lesquels on pouvait avoir confiance et pas des fous qui avaient décidé de mettre des barricades autour de leur entreprise.
Me gustaría que para ya pasar en todo caso a más al tema de las recuperadas, si hay alguna pregunta puntual que quieran hacer sobre la experiencia del diario, preferiría abrir el diálogo ya, ¿no?
Sí, y luego. Donc on va faire un premier temps de débat sur l'expérience du journal avant de passer plus largement au contexte des entreprises récupérées argentines. Donc si quelqu'un a déjà des questions qu'il souhaite poser à Sergio, des précisions ou des points d'éléments de débat.
Me preguntan, pardon, je vais essayer.
Je sais pas si est-ce qu'on passe le micro
ou...
OK. Gilles.
Oui, comment d'abord merci. Comment se passe le quotidien, c'est-à-dire est-ce qu'il y a régulièrement des assemblées générales, par exemple? Et d'autre part, quelles sont les différences de salaire entre les différents associés, entre les différents salariés?
Sí, 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 ya está. Sí, y justo lo que iba a decir. Bueno, voy a contar brevemente cómo funcionamos.
Je vais raconter rapidement comment est-ce qu'on fonctionne.
Funcionamos como una cooperativa de trabajo.
On fonctionne comme une coopérative de travail.
Donde el único capital que tenemos es el trabajo.
Dans laquelle le seul capital qu'on a, c'est le travail.
Más allá de las máquinas que hay que tener para hacer el diario, ¿no?
Au-delà des machines, bien sûr, dont on a besoin pour faire un journal.
Somos 54 socios, hay un consejo de administración compuesto por 7 consejeros y 2 síndicos, que son representantes del resto de los compañeros, que tienen voz, pero no tienen voto.
Donc, ils sont 54 associés, il y a un conseil d'administration de 7 conseillers, plus 2 alors, je ne sais pas comment on traduit, les syndics, 2 syndics, en fait, ça, c'est comme ça qu'on traduirait, qui sont des représentants du personnel qui portent la voix des travailleurs au conseil d'administration. Voilà. Mais qui n'ont pas de droit de vote au même titre que les membres du conseil d'administration.
Et ce conseil se cambia parcialmente todos los años.
Donc ce conseil d'administration, il change chaque année partiellement.
Nadie, ningún socio puede estar más de 3 años dentro de ese consejo, y de permanecer 3 años no puede repetir cargo anualmente.
Donc aucun conseiller ne peut rester plus de 3 ans au sein du conseil d'administration, et c'est pas possible de renouveler sa charge d'année en année, en fait.
De ese modo conseguimos que todos los compañeros en algún momento intégrent el consejo de administración.
De cette manière, ils ont réussi à ce que chaque associé à un moment donné ait pu passer par le conseil d'administration.
Por marco legal, las cooperativas pueden tener una asamblea anual donde se eligen autoridades, donde se lee la memoria, donde se aprueba el balance y se integran nuevos socios.
Donc, du fait du cadre légal, il y a une assemblée annuelle dans le cadre de laquelle on élit les dirigeants, on fait la memoria, on fait le bilan, et puis on présente les comptes, etc.
Si,
et on intègre les nouveaux associés.
Si queremos hacer otra asamblea por algún tema especial, hay que pedir autorización al INAES, que es el instituto que regula, en la institución que regula la actividad cooperativa en Argentina.
Si on veut faire une assemblée supplémentaire, on est obligé de faire des démarches administratives auprès de l'INAES, qui est l'institution qui régule les coopératives en Argentine.
Pero nosotros encontramos una forma de hacer trampa a esa ley.
Mais on a trouvé une manière de faire une sorte, enfin, de contourner la loi, quoi.
Y encontramos una forma que llamamos reuniones de convivencia.
Donc c'est ce qu'ils appellent les réunions de vivre ensemble.
Que son asambleas que tienen el carácter de asamblea, y que lo que se decide en esas reuniones es un compromiso interno, lo que se decide en esas reuniones se refrenda legalmente en la asamblea anual.
Donc en fait, ce sont des assemblées qui ont la même valeur qu'une assemblée, ils se sont engagés en interne à ce que tout ce qui se décide dans ces assemblées soit retranscrit lors de l'assemblée annuelle.
De esa manera conseguimos funcionar casi en estado de asamblea permanente. Es decir, si hace falta una asamblea, y sí, hace falta, créanme. Si hace falta una asamblea, se hace.
En fait, de cette manière-là, ils ont réussi à créer une sorte d'assemblée permanente. Et s'il y a besoin d'une assemblée, s'il manque une assemblée, ben oui, elle se fait. Et croyez-moi, il y en a besoin.
Y de ese modo conseguimos que el consejo de administración siempre esté sujeto a la voluntad de la mayoría.
De la sorte, le conseil d'administration est toujours soumis à la volonté de la majorité.
Lo que, por un lado, regula a los consejeros, pero por otro lado, les muestra el apoyo permanente de la mayoría de los compañeros.
Ce qui, à la fois, permet de réguler les conseillers, et puis d'une autre manière, les assure du soutien permanent de l'ensemble des associés à leur action.
No sé si contesta más o menos la pregunta.
Las diferencias de salario.
Primero, durante los primeros 4 años.
Pendant les 4 premières années.
Y hasta que llegamos todos a percibir un salario que en realidad no es un salario, se llama retiro de utilidades.
Et jusqu'à ce qu'ils réussissent à percevoir un salaire qui en fait n'est pas un salaire, ça s'appelle
le reparto de ganancias.
En gros, c'est la répartition des bénéfices puisqu'on est en cadre coopératif et que le cadre légal.
Porque no hay empleados, somos todos socios.
Il y a pas d'employés, ils sont tous associés. Le statut coopératif est différent en Argentine par rapport à la France à cet égard.
Las cooperativas de trabajo no pueden tener empleados.
Les coopératives de travail ne peuvent pas avoir d'employés. D'ailleurs, ils ont en fait un peu le statut de patron, quoi. Pour même lei. Au niveau de leurs apports légaux, etc.
Por ley.
Par la loi.
Entonces, pero llamémosle salario. No fácil.
Appelons-les salariés, c'est plus facile.
Los primeros 4 años, hasta que todos nos repartimos, todos llegamos a percibir un piso que consideramos digno.
Donc, jusqu'à ce qu'ils parviennent au bout de 4 ans à percevoir un salaire qu'ils considèrent comme digne,
todos cobrábamos iguales.
Ils ont tous touché la même chose.
Luego, decidimos en asamblea hacer 4 categorías.
Ensuite, ils ont décidé en assemblée de faire 4 catégories.
La 4 es la más alta.
La 4e est la plus haute.
Et la 1.
Et la
más baja, sí.
La première la plus basse.
En la categoría 4 están los socios fundadores, aquellos que renunciaron a las indemnizaciones, renunciaron a todos los a 20 años de aportes.
Donc dans la catégorie 4 la plus haute, c'est les associés fondateurs, ceux qui ont renoncé à leurs indemnisations, à leurs 20 ans d'apport aux caisses de sécurité sociale.
Los próceres, decimos. Los próceres, comment seria próceres?
Ceux qui ont fait l'histoire.
Ceux qui ont fait l'histoire.
Los que hicieron la revolución.
Ceux qui ont fait la révolution.
Entonces es una forma de reconocimiento.
C'est une forme de reconnaissance.
Y una forma también de enseñarle a los socios que llegaron cuando todo estaba marchando de que hubo una época en que no había nada.
Ouais, c'est aussi une manière d'enseigner à ceux qui sont rentrés une fois que tout était bon que ben il y a eu une expérience avant, il y a eu des luttes avant pour une période où il y avait rien quoi.
Pero la categoría 4 es máxima y la aspiración es que todos en algún momento lleguemos a ser categoría 4.
Mais en fait la logique du système c'est que à un moment donné tous arrivent à la catégorie 4. C'est donc déjà elle est plafonnée et tous doivent arriver à un moment donné à ce niveau.
Y la diferencia de salarial en realidad es más bien simbólica.
Et la différence en fait est plus symbolique qu'autre chose.
En números concretos, a ver cómo lo podemos traducir, un socio de categoría 4 gana 9000 pesos.
Donc pour le dire en termes de chiffres, un associé de catégorie 4 gagne en gros 9000 pesos.
Et un socio de categoría 1 gana cerca de 7000.
Et un associé de catégorie 1 gagne autour de 7000, 6-7000.
Lo que pasa es que resulta difícil traducirlo de verdad eso para que se entienda acá cuál es la diferencia.
Oui, faudrait le traduire en euros, mais si je pense que pienso que
entiende. Sí, sí, sí. Bien. Bien. ¿Algo más?
J'ajouterai quelque chose par rapport à ça, puisque je les ai rencontrés, que j'en ai discuté avec eux. Ce qui est très intéressant, c'est que les différences ne s'établissent pas en fonction des qualifications. Par exemple, un travailleur de l'atelier de presse, un ouvrier graphique, peut très bien être dans la catégorie 4 de la même manière qu'un journaliste.
Explicando que en la categoría 4 y la categoría 1 puede haber obreros.
Claro, sí, no tiene que ver con las categorías, no tienen que ver con la función, sino con esto que decía recién de quienes fueron los que dieron la lucha. Hay periodistas categoría 1 y la señora que limpia es categoría 4.
Donc il y a des journalistes qui sont dans la catégorie 1 et la femme de ménage elle est catégorie 4 par exemple, pour vous donner une idée concrète quoi. Alors les questions suivantes, j'ai noté Nils.
Nils,
je voulais savoir quelle est l'évolution en termes de contenu, en termes de traitement médiatique, qu'est-ce que le processus de récupération a amené entre l'ancienne gestion patronale et la gestion de la coopérative.
Sí,
y de nuevo.
Por empezar, particularmente en el diario, que si quieren que circule, lo sé. Particularmente en el diario, al ser de los trabajadores, conseguimos una independencia total porque logramos generar recursos genuinos, que son producto, van a ver la cantidad de publicidad que tiene, o sea, los recursos provienen de la publicidad de los comerciantes, no de las pautas oficiales.
Depuis que ce sont les travailleurs qui sont devenus, qui ont pris possession du journal, le contenu a changé, ils ont gagné en indépendance et leurs ressources, vous allez voir qu'il y a pas mal de publicité dans le journal, donc les ressources sont des ressources propres qu'ils tirent des commerçants de la ville et pas
de la publicité
officielle du gouvernement par exemple.
Entonces eso nos libera en nuestra línea editorial mucho, o sea, nuestro compromiso editorial es con el lector siempre.
Donc ça les libère beaucoup dans leur contenu éditorial et leur engagement éditorial, leur ligne éditoriale, c'est avec les lecteurs toujours.
Eso nos ubica en el lugar en un lugar de total pluralismo por decisión. Todo el mundo tiene las puertas abiertas para expresarse en el diario.
Ça permet un pluralisme total et tout le monde a la liberté de s'exprimer dans les pages du journal. Respecte le pluralisme.
Hay quienes nos critican por eso, porque dicen que no tenemos línea editorial.
Donc ils sont critiqués pour ça parce que certains disent que du coup ils n'ont pas de ligne éditoriale.
Y a nosotros nos gusta pensar que esa es nuestra línea editorial.
A eux ça leur plaît de penser que ça c'est leur ligne éditoriale justement.
Y tenemos un, por eso digamos, puede hoy expresarse el intendente, mañana el líder de la oposición política y pasado una vecina que ni siquiera sabe escribir, que viene al diario a dictar su carta para que sea publicada.
Donc aujourd'hui peut très bien s'exprimer dans les pages du journal l'intendant et puis demain le leader de l'opposition et hier une dame qui sera venue au journal qui sait même pas écrire et qui sera venue au journal pour dicter une lettre qu'elle veut publier dans le journal.
Y todos tienen el mismo espacio.
Et ils ont tous le même espace.
Y tenemos nosotros un chiste adentro, que es que si se quieren pelear, que se peleen, pero que se peleen en el diario.
Donc ils ont une blague au sein du journal, c'est s'ils veulent se battre ou se disputer, qu'ils se disputent, mais qu'ils se disputent au sein du journal.
Entonces eso nos permite jugar periodísticamente, tratando siempre de reflejar reflejar todo lo que está pasando en la ciudad. Y sí, somos, digamos, un diario muy local y regional.
Ça leur permet de se faire écho de tout ce qui se passe dans la ville. Ils sont vraiment un journal local et régional.
Sin dejar de tener noticias de provinciales o nacionales o inclusive del mundo.
Même s'ils ont quand même des nouvelles nationales au niveau de l'Amérique latine et même du monde.
Nos concentramos fundamentalmente en la información que nos parece importante para la ciudad.
Mais ils se concentrent sur l'information qui leur semble importante pour la ville.
Es un medio que básicamente es un medio básicamente regional y local, y ese creo que es el secreto de su supervivencia.
Et donc ils pensent que c'est le secret de la résistance, de la survie du journal, justement, de tenir cette ligne.
Porque a los grandes medios nacionales y provinciales no le interesa reflejar la realidad de un pueblo de 5.000 habitantes.
Parce que les médias nationaux, ça les intéresse pas de refléter la réalité d'une ville de 60.000 habitants comme Villamarie.
Sí, 70.000 o 5.000 de un pueblito cercano.
O 5.000 d'un petit village à côté, quoi.
Pero al habitante de esa pequeña ciudad, sí le interesa verse reflejado, sí le interesa que alguien lo escuche, porque hace 3 años que está pidiendo que pongan una luz en la esquina de su casa.
Mais si pour l'habitant de ce petit village de 5000 habitants, c'est important qu'il y ait un média qui se fasse l'écho de sa voix et qui dise que ça fait 3 ans qu'il se bat pour avoir un lampadaire au coin de sa rue.
Sí, o que su poesía es publicada en el diario nuestro, o que ganó un torneo de ajedrez en el barrio.
Qu'une personne a gagné un tournoi d'échecs dans le quartier d'à côté.
Y a los grandes medios eso no le interesa. Entonces, nunca se va a ver en un gran medio, a menos que sea Messi.
Donc ça se verra pas dans un grand journal à part si c'est Messi. Messi c'est le joueur de foot argentin.
Y eso es reflejar eso. Creo que nos ha ayudado a ser exitosos como empresa.
Ça les a aidés, cette ligne-là, à être, avoir un grand succès en tant qu'entreprise, quoi.
No sé si contesta la pregunta, Nils.
Sí, attendez,
c'est
le
temps
pour la parole.
Benoît,
je voulais poser une question. Oui, alors, quand on écoute l'histoire d'El Diario, dans un contexte français, ça paraît complètement surréaliste. On a là un journal qui a une très faible diffusion, 1200 exemplaires, qui va à 16 000.
6 000.
7 000.
6 à 7
000. D'accord. Ok, 6-7 000. Et ça, c'est à contre-courant de ce qu'on voit nous en France sur la presse. Même la presse quotidienne régionale qui tenait encore un petit peu en France, mais qui commence maintenant à se réduire. Alors, quelles sont les raisons de ce succès? Alors, quelques pistes sur lesquelles je m'interroge. Est-ce que la situation française de la presse n'a rien à voir avec la situation de l'Argentine? Première question. Notamment en ce qui concerne la PQR, presse quotidienne régionale. Est-ce que le succès, c'est aussi la façon de travailler de la coopérative qui l'explique, notamment sa relation au lecteur? Et est-ce qu'il y a un autre journal concurrent dans la région ou d'autres journaux concurrents dans la région? Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà.
Si. Bon. Qué largo.
C'est très large.
Sí, es surrealista. Metemos las palabras en un sombrero, las sacamos y escribimos el diario.
Oui, c'est surréaliste. On met les mots dans un chapeau, on les sort et puis ça fait le journal, quoi.
Como Tristán Sara. Parece surrealista, a nosotros también, pero ¿cómo es?
A nous aussi, ça nous paraît surréaliste.
Es muy larga la pregunta, ¿cómo empieza? Sí. A ver. Tampoco terminamos de saber nosotros bien por qué ha sido tan exitosa nuestra experiencia.
Ils ont pas encore fini de comprendre pourquoi leur expérience a connu un tel succès.
Creemos que es porque porque la gente común, el ciudadano de a pie, nos ve como sus pares, como sus iguales.
Ils pensent que c'est dû au fait que les gens communs, enfin le Kidam, les voient comme leur père, comme leurs égaux.
Et porque se sienten escuchados. Es muy común que ocurra que cuando la gente tiene un reclamo hacia el intendente o hacia una empresa que no le brinde el servicio como por lo que él, por el que está pagando.
Ils se sentent écoutés. Ça arrive souvent qu'une personne fasse un recours personnel à l'intendant ou à une entreprise pour un service qui n'a pas été réalisé.
De un hospital público o de una escuela.
Ou un hôpital public ou une école.
Si no es escuchado, la gente amenaza, dice, ahora voy al diario, y en el diario sí lo escuchamos y publicamos su reclamo.
Si son pas écoutés, ils disent, bon, bah, dans ce cas-là, on va au journal, et au journal, bah, ils sont écoutés, et c'est publié.
Hacemos visible lo invisible.
On rend visible l'invisible.
En ese sentido, sí es surrealista.
Dans ce sens, c'est surréaliste.
Entonces, sí, también es cierto, sí, que la mayoría de los medios, y sobre todo los grandes medios, no operan así, no trabajan así.
C'est sûr que les grands médias surtout ne travaillent pas du tout de cette manière-là.
Entonces, eso afortunadamente para nosotros.
Heureusement pour nous.
Eso nos deja todo ese campo de trabajo.
Ça leur laisse tout ce champ de travail.
Que creemos que es en parte el secreto. Y sí, hay competidores, hay otro diario que sale color en Villa María.
Il y a bien de la concurrence, il y a un autre journal qui sort en couleur à Villa María.
Y que no vende lo que vendíamos nosotros en un principio.
Et qui n'arrive pas à vendre ce qu'ils vendaient eux au départ, quoi.
La gente no lo siente propio.
Les gens ne le sentent pas comme n'arrivent pas à se l'approprier, quoi.
Y porque sí es un órgano político, como son todos los medios hoy, ¿no?
Et parce que c'est aussi un organe politique comme le sont tous les médias aujourd'hui.
Y yo creo que la gente, aún la gente que no está especialmente preparada o que no tiene una lectura intelectual sobre ese aspecto, sí lo siente, sí se da cuenta.
Les gens qui sont pas qui pensent pas les choses de manière intellectuelle sentent cette différence, quoi.
Y ahí ya tenemos que pasar a hablar del rol político que juegan los medios en la actualidad en el mundo. Oui. Todos los medios en el mundo, ¿no?
Y nos conduce a hablar del rol político que juegan los medios aujourd'hui en el mundo.
Que es insolayable porque todos los medios operan para algún sector, sí. Sobre todo para la derecha.
Oui, donc tous les journaux travaillent pour un secteur politique et surtout pour la droite.
Los medios gráficos y los medios televisivos y los medios radiales, ¿no? Todos los medios.
Que ce soit la presse, la radio, la televisión.
Y en Argentina, particularmente, eso es muy fuerte porque hay una gran concentración de medios en un solo grupo económico.
C'est particulièrement fort en Argentine parce qu'il y a une très grande concentration des médias dans un seul grand groupe.
Que responde al poder histórico.
Qui correspond au pouvoir historique.
Sí. Entonces, digamos, pero me parece que sí, que ya no sé, nos estamos un poco yendo del tema, ¿no?
On s'éloigne peut-être un peu du thème.
No, si quieren que seguimos por ahí, seguimos, pero...
Mais si vous voulez continuer dans ce
genre. Pero habría que tratar de hacer un paralelo de qué ocurre con los otros medios recuperados y cooperativos que hay entonces en ese concierto de medios.
Y puis que il faudrait faire un parallèle avec les autres médias coopératifs qui existent dans cet ensemble, dans ce contexte. Donc peut-être que ce sera abordé dans la seconde partie.
Por eso, sí.
Dans la deuxième partie, peut-être qu'on va plus justement parler de cette partie. Monsieur.
Oui, c'est à propos des salaires et des catégories.
On prend une deuxième
question. Quelle antiguidad tenía el diario?
Ah, sí.
El conflicto, para saber qué influencias tuvo.
17 años.
En relación a otros diarios.
Y hoy, ya hoy, con casi 30 años, es el diario que más ha permanecido en la historia de la ciudad, que tiene 145 años.
Il y a eu des questions. Donc là, le petit échange qu'il vient d'avoir. Donc c'était la question, c'était depuis quand existait le journal avant. Donc la réponse était 17 ans dans une ville où en fait historiquement il y avait, c'est le journal de la ville quoi. Il y avait plus de journal depuis très très longtemps. Le plus ancien à 140 ans.
Me gustaría contestar la pregunta. Sí, en realidad la diferencia es simbólica, no, para nosotros tampoco cambia nada que haya un periodista en categoría 1 y un personal de limpieza en categoría 4. Es simbólico y más que nada es un escalafón que tiene que ver con el reconocimiento a estos a este grupo que inició esta empresa de la nada y como para mantener vivo esta idea de que bueno, también hay que trabajar y aportar para llegar a la categoría 4, digamos.
Bon, il dit que donc pour eux non plus ça change rien les différences de catégorie et que c'est vraiment une différence symbolique et pour eux c'est juste une forme de reconnaissance envers les travailleurs qui ont conduit la lutte au départ, le sacrifice qu'ils ont fait et puis c'est aussi pour porter le message que il faut un certain engagement pour atteindre la catégorie 4.
De hecho, en las asambleas todos los votos valen uno.
Mais de fait dans les assemblées tous les votes valent la même chose, il n'y a pas de différence de pouvoir. Autre question.
Est-ce qu'il y avait en 1981 et avant, est-ce qu'il y avait une sensibilité coopérative, autogestionnaire au sein de
Si había sensibilidad, ¿no? Sensibilidad, ¿no?
¿No?
¿No? ¿Cómo es que se ha organizado?
¿Cómo se organizó justamente?
¿Es que las funciones de dirección, es que se ha modificado por rapport al encadrement,
Pregunta si se modificaron las funciones de dirección, los puestos.
Ah, o sea, bueno, buena pregunta.
Buen cuestión.
No había sensibilidad cooperativa.
Donc il n'y avait pas de sensibilité coopérative.
Como, hay que entender un poco la historia y la historia argentina dentro de la historia mundial.
Il faut comprendre l'histoire de l'Argentine et l'histoire de l'Argentine à l'intérieur de l'histoire mondiale.
El diario se fundó como empresa, empresa común, en 1984.
Donc le diario a été créé en tant qu'entreprise en 1984.
Casi con el advenimiento de la democracia, luego de la más sangrienta dictadura que ha conocido la historia argentina.
Avec l'avènement de la démocratie après l'une des plus sanglantes dictatures qu'ait connue l'histoire argentine.
En los 80, si bien hubo un cierto despertar político, la dictadura dejó, ¿cómo decir?, dejó diezmada la clase activista, la clase dirigente, la clase sindical, destruyó familias, destruyó todo la dictadura.
Donc en fait, le contexte des années 80 est très particulier parce que la dictature, même s'il y a eu un certain réveil politique, la dictature a vraiment laissé la classe syndicale, politique, militante complètement détruite, vidée, des familles entières brisées. Vous savez qu'il y a 30 000 disparus, donc voilà, tous les militants ont disparu, quoi.
En los 80, sobrevino el mentado fin de la historia.
Donc on a appelé les années 80 la fin de l'histoire. On parlait de la fin de l'histoire.
Que no alentaba precisamente la participación política en la juventud.
Ne favorisait pas la participation politique dans la jeunesse, notamment.
Y los 90 fueron el pico máximo de la frivolidad y easy money, el dinero fácil.
Donc les années 90, ça a été le seuil maximum de la frivolité, l'argent facile,
de modo que
capitalisme débridé.
De modo que estábamos muy lejos de pensar en términos cooperativos.
Et donc ils étaient très très loin de penser à cette époque en termes coopératifs, les années 90.
Pero como parafraseando un poema de Borges, citando, parafraseando un poema de Borges.
Citer un poema de Borges.
Y miren qué representante de la derecha más recalcitrante de Argentina.
Y por montrer ce qu'est la droite la plus recalcitrante d'Argentine.
No nos unió el amor, sino el espanto.
C'est pas l'amour qui nous a unis, mais
l'aura.
Mais l'aura.
Entonces, alguien que sí tenía una trayectoria de cooperativa, como cooperativista, a quien le estaremos eternamente agradecidos.
Y a una persona que avait una trayectoria cooperativa. Et à qui on aura une reconnaissance éternelle.
Vino y nos dijo, ustedes lo que tienen que hacer es una cooperativa.
Est venu et leur a dit, vous, ce que vous avez à faire, c'est une coopérative.
Y bueno, nosotros no teníamos ni la menor idea de lo que era una cooperativa.
Ils savaient même pas ce que c'était une coopérative.
El Negro Espíndola, una persona que ya murió.
Désolé, je lui ai demandé qui c'était. Il est mort aujourd'hui.
Pero que fue nuestro mentor.
Ça a été leur mentor.
nos explicó más o menos cómo funcionaba y vimos que podía ser una salida posible y fuimos a consultar con un abogado para ver la cuestión legal.
Donc il leur a expliqué comment ça fonctionnait et ils sont allés voir un avocat pour connaître les questions légales.
Y el abogado nos dijo que estábamos locos, que a lo sumo un formato así podía llegar a durar dos años.
Donc l'avocat leur a dit qu'ils étaient complètement fous et que au mieux sous cette forme-là, ils pouvaient tenir deux ans.
Pero que si nosotros queríamos, él nos ayudaba con eso.
Mais que s'il voulait, il voulait bien les aider avec ça.
Los compañeros que fueron a hablar con ese abogado vinieron a mentirnos al resto de los compañeros y a decirnos que sí, que bárbaro.
Donc les... Je me suis perdu.
Que los dos compañeros que fueron a hablar con ese abogado que nos dijo que
oui, donc les deux camarades qui sont allés parler à l'avocat au lieu de se dire bon c'est pas possible on y va pas, ils sont dit ouais trop bien on y va.
Y bueno, dijimos bueno, porque además dos años en ese momento pensábamos si sobrevivimos dos años.
Oui, et puis pour eux à cette époque survivre deux ans c'était déjà bien quoi.
Era una expectativa de vida.
C'était déjà une expectative de vie impressionnante compte tenu de leur situation.
Y bueno, así empezamos. Quiero decir que no había dos computadoras.
Il veut dire qu'il y avait deux ordinateurs.
Teníamos cortado internet.
Ils avaient plus internet.
Teníamos cortado el teléfono.
Ils avaient plus de téléphone.
Y había al frente un kiosco.
En face, il y avait un petit kiosque. Il y a beaucoup de kiosques en Argentine. C'est des petits magasins où on vend un peu de tout quoi, à l'unité.
Con un teléfono público.
Avec un téléphone public.
Et un cyber. Con...
Et un cybercafé.
Un cybercafé. Y ahí trabajamos.
Et c'est là qu'ils ont travaillé.
Y ahí recibíamos las llamadas, las primeras
c'est
llamadas.
Ils recevaient les premiers appels.
Y el dueño del kiosco. Attendez, disait El Diario.
Le patron du kiosque, il répondait, il disait le journal, enfin El Diario, il répondait pour le journal.
Bueno, eso muestra también lo que sentía la gente por nosotros.
Ça montre combien c'était important l'appui des gens pour eux, quoi, l'appui de la population. Alors on va peut-être clôturer.
Una última cosa. Y todavía estamos aprendiendo à fonctionner comme coopérative.
Et il dit qu'ils apprennent toujours à fonctionner comme coopérative. C'est un apprentissage qui n'est pas terminé.
C'est bien.